Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 27 avril. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques, évidemment, et vous ne serez hélas pas épargnés par quelques nouvelles des récents bouleversements électoraux. Mais nous essaierons de nous élever un peu plus haut que les altitudes auxquelles stagnent bien trop souvent les commentaires politiques ces derniers temps et aurons le plaisir de recevoir tout à l'heure Quentin, cofondateur des Insoumis de l'ENS de Lyon, pour parler un peu de la place et de l'avenir de la gauche à l'issue d'un premier tour qui a fait triompher la droite et l'extrême droite. Mais ces bruits seront aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission. Vous entendrez entre autres échos des nouvelles de Bertolt Brecht, de Pascal Clark et de l'intelligence des poulpes. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Bonsoir à toi Rémi, et oui, vous n'y échapperez pas, je vais vous parler des résultats du premier tour de cette élection présidentielle. Je ne vous apprends rien, le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu dimanche dernier et a donné en tête Emmanuel Macron avec 24,01% des voix, suivi de Marine Le Pen qui a reçu 21,3% des suffrages. C'est la deuxième fois que le Front National arrive à se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle depuis le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen avait affronté Jacques Chirac. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon arrivent respectivement 3e et 4e de cette élection avec 20,01% et 19,58%. Le candidat du Parti Socialiste Benoît Hamon réalise quant à lui le deuxième plus mauvais score de l'histoire du parti avec 6,36% des voix, devant le score de Gaston Defferre qui n'avait obtenu que 5,01% en 1969. La quasi-totalité de la classe politique, de droite comme de gauche, a appelé à soutenir Emmanuel Macron pour le second tour, à l'exception de certaines personnalités de droite comme Laurent Wauquiez, qui ont seulement appelé à faire barrage au FN sans donner plus de précisions. Sens commun, la Manif pour tous, Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate ont quant à eux appelé à faire barrage à Emmanuel Macron, le, je cite, « candidat ouvertement anti-famille » selon la Manif pour tous. Et on fait entendre qu'il voterait pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, n'a pas donné de consigne de vote et a lancé depuis mardi une consultation des Insoumis sur Internet, dont les résultats seront rendus publics le 2 mai. Les intéressés ont le choix entre trois possibilités, le vote Emmanuel Macron, le vote blanc ou l'abstention. Alexis Corbière, porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, a fait savoir qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen. Les deux candidats en lice pour le second tour étaient hier à Amiens sur le site de l'usine Whirlpool menacée de fermeture. Emmanuel Macron était à la rencontre des syndicats à la Chambre de commerce et Marine Le Pen s'est rendue sur le parking de l'usine pour une séance de photos avec les employés et les militants. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à l'usine où il a reçu un accueil houleux. Marine Le Pen s'est mise en congé de la présidence du Front National. Le président par intérim du parti d'extrême droite, Jean-François Jalk, est connu pour avoir tenu des propos négationnistes dans les années 2000. Dans une interview à La Croix en 2000, il avait remis en question l'utilisation du Zyklon B dans les chambres à gaz et il avait aussi loué le sérieux et la rigueur d'argumentation de Robert Forisson. La campagne présidentielle fait des ravages dans le champ médiatique. La journaliste Audrey Pulvar a été suspendue de l'antenne de la chaîne CNews, chaîne de Vincent Bolloré, pour avoir signé une pétition contre Marine Le Pen à la demande du vice-président du Front National, Florian Philippot. Pour sa défense, la journaliste a déclaré sur Twitter, je cite, « Tous les jours, des journalistes éditorialistes d'extrême droite déroulent le programme du FN dans des médias généralistes. Ça ne gêne personne. » À la radio, c'est l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré qui a claqué la porte de l'antenne de France Inter, s'estimant, je cite, « censuré par la radio publique ». Intervenant dans l'émission de Nagui, la bande originale, l'humoriste se serait vu demander de ne pas faire une chronique promouvant l'abstention, chronique qu'il a par la suite diffusée sur sa page Facebook. L'animateur Nagui s'en défend, estimant que l'humoriste n'était pas clair dans son positionnement sur l'abstention. Il lui proposait de faire cette chronique le lendemain, aujourd'hui donc, sans en changer un mot, ce que l'humoriste a décliné. Pierre-Emmanuel Barré a fait savoir que sa décision de démissionner était irrévocable. La campagne n'en finit pas avec les affaires. 17 élus du Front National, dont Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot et Florian Philippot, sont visés par une enquête concernant des emplois fictifs au Parlement européen. En 2015, le préjudice du Parlement européen avait été estimé à 1,9 million d'euros. Et c'est une révélation aujourd'hui, ces estimations ont été revues à la hausse puisqu'elles atteindraient 5 millions d'euros et non pas 1,9. Que fera-t-il après l'Élysée ? On sait que le président François Hollande occupera les locaux d'un bureau situé dans le 1er arrondissement de Paris. C'est une information qui a été révélée aujourd'hui, mais on ne sait pas encore ce qu'il y fera. Je clôt maintenant la page politique de ce journal et attention à l'attaque des tampons tueurs. La journaliste Audrey Gloagen a réalisé un documentaire pour France 5 qui a été diffusé mardi soir et qui met en évidence les dangers des tampons hygiéniques sur la santé des femmes. Depuis le début des années 2000, on constate une augmentation croissante du nombre de syndromes du choc toxique, SCT, qui serait lié aux composants cancérigènes et aux perturbateurs endocriniens contenus dans les tampons absorbants. Et à l'étranger maintenant, Angela Merkel a fait savoir aux Britanniques qu'ils ne devraient pas se faire d'illusions quant aux négociations sur le Brexit qui s'annoncent tendues. La chancelière allemande parlait au Bundestag aujourd'hui. À Londres, maintenant, un homme d'une vingtaine d'années qui voulait commettre un attentat a été interpellé. Des armes blanches ont été retrouvées sur lui. L'individu est désormais en garde à vue. Et cet événement intervient quelques semaines après un attentat qui a touché la capitale britannique. Et c'est tout pour ce journal d'aujourd'hui.
7 avril, Mathias. Merci beaucoup, Mathias, pour ce journal, Les tampons tueurs. Voilà une chronique que n'aurait pas renié Léo à l'époque où il était en charge de l'édito scientifique. Savez-vous, chers auditeurs, qu'il existe un excellent film de série Z où les zombies sont des tampons agressent les êtres humains. Oui, mesdames et messieurs, ça existe. Je peux même vous mettre la bande-annonce sur la page de l'émission pour les plus fascinés par le cinéma d'entre vous. Eh bien, Marie, justement, tu semblais
quoi, Marie, justement,
un petit peu choquée par l'idée de parler de ce film.
Oui, oui.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors Raph en régie a décidé que je ne ferai pas de transition vers ta revue de presse, Marie, mais
au quart de tour là, comme ça on enchaîne.
Je persiste. Enfin bon, nous sommes déjà jeudi, Marie, et tu nous proposes un petit retour en arrière pour ouvrir cette revue de presse.
Oui, tout à fait. J'aimerais commencer en disant un mot des unes de lendemain d'élection dans la presse nationale. Alors, en grande majorité, elles ont été consacrées à la réussite du pari macroniste. C'est le cas chez Libé, chez Le Parisien, Les Échos ou encore chez L'Express. Pas grand monde pour s'émouvoir du score de Le Pen qui, si elle n'est pas en tête, a quand même fait beaucoup trop haut, à mon avis. À vrai dire, il n'y a guère qu'à l'Humanité qu'on pense encore à faire une couverture avec la candidate FN, sous-titrée d'un gros « jamais ». Un écho à la couverture de 2002, un Le Pen père barré d'une grosse croix rouge avec un « la France ne mérite pas ça, non ».
Et au milieu de toutes ces couvertures, il y en a une qui n'insiste ni sur Macron, ni sur Le Pen.
Tout à fait, Rémi. Le Figaro, ce n'est pas comme ça qu'il lit ce premier tour. Le Figaro ne fait jamais rien, comme tout le monde.
On l'attendait.
Alors, sous les portraits de Macron et de Le Pen, ce qu'on lisait le 24 avril, c'est la droite chaos. Oui, chers auditeurs et auditrices, ce qu'il faut retenir de ce premier tour, c'est qu'il n'y aura pas Fillon pour y défendre les belles idées de droite. Alors, j'aimerais entendre un peu de tristesse et de contrition dans ce studio, s'il vous plaît.
Que nous sommes tristes.
Voilà. La régie est très triste dans les casques.
Voilà, j'apprécie votre contrition, merci. Donc, la droite KO et un éditorial d'Alexis Brézé. Un immense gâchis. Ah, il est énervé, le petit Brézé. Ah, ça oui. Ah, il s'en remet pas, hein. Du grand tour de passe-passe par lequel Macron, c'est sûr et certain, va devenir président. C'est, je cite, le hold-up politique du siècle. Au moins. Calme-toi, Alexis. Mais non, le voilà pris d'envolée lyrique. Les idées et valeurs de la droite n'ont jamais été aussi majoritaires dans les profondeurs du pays. Et encore, un requiem pour François Fillon, je cite. Un homme a perdu, victime de ses propres faiblesses, de ses erreurs, de l'acharnement de ses adversaires, de la vindicte des médias et des lâchetés de son camp. Et ça comprendrait presque un ton révolutionnaire pour écrire que ce dont la France a besoin aujourd'hui, oui, ce qui va sauver la France, messieurs, dames, c'est la grande synthèse libérale conservatrice. Oui, il a vraiment écrit la grande synthèse libérale conservatrice. Mais bon sang, connard d'éditorialiste du Figaro, c'est bien gentil d'appeler à ne pas voter Le Pen. Mais ne fais pas semblant d'ignorer les similitudes entre la droite très conservatrice et très dure de Fillon et celle du Front National. Parce qu'il y en a. Un peu d'honnêteté intellectuelle, que diable.
Alors ça, c'était pour tes grands amis du Figaro. S'ils nous écoutent, on les salue avec amour.
Oh là là, oui.
Et chez Libé, la rédaction ne se sent plus non plus.
Ah bah oui, ça, on s'amuse bien avec la une d'hier. Eh bien Manu, tu redescends ? Alors on voudrait, chez Libé, un Macron sobre et concentré, un front républicain impénétrable. Et à la place, on tacle un Macron frimeur, clinquant, beaucoup trop sûr de lui, et prêt à rejouer à la brasserie de la Rotonde les sarconneries du Fouquet's. Mais écoutez... Pour que Macron redescende un peu parmi nous, il aurait fallu ne pas le porter au nu comme l'ont fait les grands patrons de la presse pendant des mois et des mois, les cocos. Ne dis pas le contraire, Libé. Tu as regardé ta une de lundi matin ? Rien sur les 21,3% de Le Pen. Non, juste la tronche de Macron qui regarde au ciel avec ce gros titre. À une marche. Tout le monde clame partout qu'il est impensable que Le Pen gagne le second tour. Alors c'est bien logique que l'économiste au sourire Colgate soit convaincu de la même chose. Alors bon, balayez un peu devant votre porte, posez-vous les bonnes questions, démontez Le Pen au lieu de ne simplement pas en parler, et méfiez-vous qu'il ne nous arrive une Trumpite surprise le 7 mai, on sait jamais.
Toujours dans Libération, une petite analyse de la com des candidats au second tour, il me semble.
Oui, alors si la sémiologie graphique vous intéresse, vous pourrez retrouver en ligne un petit article d'analyse des deux nouvelles affiches, celle de Macron et celle de Le Pen. Alors côté Macron, du gros plan sur le visage, du très sobre pour ne pas prêter le flanc aux détournements d'affiches qui sont maintenant monnaie courante pour tous les candidats. Côté Le Pen, un plan large, une pose semi-assise décontractée et une bibliothèque en fond. Ça glose beaucoup sur le genou apparent de Le Pen qui ne serait soi-disant pas présidentiable. Ah bon ? Pourquoi pas ? Même si à mon avis, il y a bien d'autres choses à reprocher à Le Pen que son genou, mais enfin bon. Dans les deux cas, beaucoup trop de nuances de bleu partout. Et des candidats lissés, retouchés, photoshopés. Il n'y a plus d'idées, il n'y a même plus de logo de parti. Il n'y a plus que de la publicité.
Et pour finir, dans les pages du Monde, on préfère laisser la parole aux sciences sociales.
Oui, enfin on essaye. Après sa carte en une mardi dernier, Le Monde en remet une couche aujourd'hui avec trois pages consacrées à la géographie du vote. Des cartes donc, et la parole laissée au démographe Hervé Lebras et aux géographes Jacques Lévy, Béatrice Gibelin et Christophe Guillouis. Alors premier avertissement pour commencer, Christophe Guillouis, ce n'est pas un géographe en fait, c'est un consultant qui produit des bouquins au titre tapageur du style « Le crépuscule de la France d'en haut ». Il sert de livre de chevet aussi bien à Sarko qu'à Hollande, vous voyez un peu le tableau, donc je ne félicite pas la rédaction du Monde sur ce coup-là. Second avertissement, les cartes produites dans les médias sont très rarement bonnes. Parfois, elles mentent même carrément, mais elles ont une apparence d'objectivité. Une carte, vous voyez, ça fait scientifique. On a envie de faire confiance à une carte, vous voyez.
Alors, à quoi elles ressemblent, ces cartes ?
Alors ici, en l'occurrence, on a une grosse carte par anamorphose. Problème des cartes par anamorphose, souvent, elles ne sont pas hyper lisibles, mais ça permet au moins de visualiser le poids électoral des grandes villes sur le territoire national. Comme d'habitude, on n'a pas jugé utile ou pertinent de représenter les départements d'outre-mer. Et puis, on a deux autres cartes plus petites, celle dite du « oui » à Maastricht, avec une gamme colorée selon le pourcentage de « oui », et celle dite de la « France de l'exclusion », à partir de 5 indicateurs de l'INSEE, avec une gamme colorée selon que les problèmes sont plutôt graves ou plutôt faibles. Mais on ne sait pas bien quel chiffre ça représente, grave, faible, moyen, tout ça. Pourquoi s'embarrasser de précision dans la légende ? Et là, je dénonce parce que c'est malhonnête. Oui, c'est malhonnête de mettre deux cartes l'une à côté de l'autre pour suggérer à nos esprits une espèce de corrélation entre les deux, alors qu'en l'état, rien ne le prouve, surtout quand on a une carte avec des données de 92 d'un côté et une autre avec des données de 2013. Invraisemblable. Tout ça donne des analyses pas très claires, avec des oppositions très binaires, ville périurbain, ville zone rurale, ce qui techniquement n'est pas la même chose, gagnant, perdant de la mondialisation, France d'en haut, France d'en bas, périphérie jamais définie, classe moyenne disparue et clivage gauche-droite qui serait complètement dynamité. Bref, un dossier du Monde trop confus que je ne vous recommande pas trop, et ce sera tout pour aujourd'hui, Rémi.
Merci beaucoup Marie pour cette revue de presse et on va rester dans le département de sciences sociales puisque nous retrouvons
le
tout
meilleur.
De suite notre invité politique du jour en la présence de Quentin.
Bonjour. Et Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre.
Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré.
Enfin, quelque chose se passe! Quelque chose, mais quoi?
Mais quoi? Alors, bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Il y a quelques mois, tu fondais les Insoumis de l'ENS de Lyon, un groupe de la France Insoumise à l'ENS, avec sa page Facebook qu'on a vu apparaître sur nos fils d'actualité. Ce soir, nous te recevons pour discuter justement un petit peu de ce que sont ces Insoumis, de ce qu'ils sont, ce qu'ils apportent à la gauche française, la vision qu'ils apportent et puis aussi celle qu'ils apportent dans l'ENS finalement, parce que la politique est à nos portes, savez-vous, chers auditeurs. Mais pour commencer donc, le mouvement des Insoumis, peut-être tout simplement, c'est quoi? Quelle est l'histoire politique de ce mouvement? D'où vient-il?
Alors l'histoire des Insoumis, très rapidement, en fait, on a ce qui a surtout été repris au niveau des grandes instances, donc bah, forcément le même candidat que le parti de gauche en 2012, donc Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours Alexis Corbière, Charles Girard pour les porte-parole, et au niveau des économistes qu'on retrouve, on a toujours Jacques Généreux. Donc à ce niveau-là, c'est toujours plus globalement la même équipe. Là où je pense qu'il y a une vraie évolution entre ce que pouvait être la candidature de Jean-Luc Mélenchon avec le Front de Gauche en 2012 et de ce qu'elle a été avec la France Insoumise cette année, je pense qu'il y a une vraie évolution au niveau du militantisme. Déjà, alors, il y a 5 ans, donc on avait vraiment un parti, le parti de gauche, avec des militants, donc c'était quand même quelque chose de beaucoup plus d'adhésion. La France Insoumise, c'est quelque chose, à mon sens, qui a été beaucoup, en partie en tout cas, beaucoup plus d'associations, dans le sens où y a beaucoup de gens en fait à la France Insoumise qui ne militaient pas avant. Et moi, je pense que la force de ça, c'est d'avoir su amener ces gens-là, notamment beaucoup d'anciens de Nuit Debout.
Alors justement, tu en arrives là où je voulais en arriver moi-même. Les gens qui composent ce nouveau mouvement, qui sont-ils? Parce qu'ils ont une histoire personnelle qui est généralement assez particulière. Tu parles de Nuit Debout, etc. Il y a une sociologie de ces gens-là, finalement, qui est assez particulière.
Alors en fait, si je voulais un petit peu caricaturer, il y avait deux types de militants à la France Insoumise, en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés. Il y en a beaucoup, c'était pas du tout leur première campagne, ils avaient déjà fait celle du Front de Gauche il y a 5 ans, et ce sont souvent des gens qui sont issus du Parti communiste ou des jeunesses communistes. Donc ce sont des militants bien rodés. Et on avait beaucoup de gens pour qui, donc, ce que j'ai dit, c'était la première campagne présidentielle. Pour une partie d'entre eux qui s'étaient découvert une veine un petit peu militante à Nuit Debout. Et la France Insoumise aussi a fait venir beaucoup de gens qui ont vu, par exemple, les vidéos de les revues de la semaine de Mélenchon sur YouTube, qui se sont dit « bon, ben, on porte quand même des choses un petit peu nouvelles qu'on aimerait un petit peu entendre. » En fait, simplement des gens qui voulaient une gauche de gauche.
Alors tous ces gens, ça fait quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens d'un milieu assez urbain.
Alors oui, en fait, moi je dirais que il faut se demander... Il y a beaucoup l'héritage de Nuit Debout, en fait, dans ces militants, dans ces, on va dire, néo-militants. Et ça, oui, forcément, c'était des mouvements très urbains, déjà, parce que souvent, les grosses Nuits Debout, c'est dans les grosses villes. Il n'y a qu'à voir à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Donc oui, effectivement, beaucoup d'étudiants. Et surtout sociologiquement, beaucoup de catégories sociales à fort capital culturel, donc qui forcément sont effectivement concentrées dans les villes, dans les grandes villes. Ce qui explique d'ailleurs que dans des villes comme Toulouse, Mélenchon soit arrivé en tête, ou en tout cas, par exemple, était très bien positionné à Lyon.
Alors, tu parlais des vidéos YouTube de Mélenchon, et c'est vrai que sa campagne a été marquée par une stratégie de communication extrêmement novatrice, hein, telle qu'on n'en avait pas encore vu jusqu'ici. Il y a vraiment une autre façon de faire la campagne qui s'est exprimée à travers ce mouvement de la France insoumise. Alors, vu de l'intérieur, qu'est-ce que cette campagne a de novateur, tant par les méthodes que par les thèmes qu'elle a pu aborder ?
Alors déjà... Un truc qui a attiré beaucoup de monde, c'est que cette campagne était très contributive, et ce sur plusieurs plans. Déjà, sur Internet, donc, on pouvait contribuer au programme, donc ça a duré un an, hein. ça fait depuis un an que donc, sur la plateforme et sur le Discord, le programme est rédigé, retravaillé. Ça a donné lieu à la publication du petit livre « L'avenir en commun » et des 327 propositions.
Alors le Discord, c'est un outil de travail collaboratif.
Le Discord, oui, c'est un outil de travail collaboratif qui sert aussi un petit peu de forum. Par exemple, en ce moment, ça discute sur le Discord pour savoir ce qu'il faut essayer de voir ce qu'il faut faire au second tour. Donc oui, en cela, donc déjà au niveau du programme, c'était très collaboratif, et au niveau des actions. Notamment grâce au groupe d'appui, on va peut-être y revenir, mais grâce au groupe d'appui, chacun pouvait un petit peu, selon ses disponibilités, selon ses envies, simplement, participer à des actions près de chez lui. Et ça, je pense, c'est pas étranger au score très élevé quand même, par rapport à tout, en tout cas à ce qu'on pouvait prévoir il y a encore quelques mois, qui a été réalisé.
Donc une campagne beaucoup plus horizontale que tout ce qui a pu se faire. C'est quelque chose qui vient aussi de la culture d'Internet dont s'est emparée la France insoumise. Culture d'Internet qu'on retrouve aussi dans le programme, puisque ce programme fait la part belle à des questions comme le numérique, comme l'écologie, dont la gauche entre guillemets radicale ne s'était jamais vraiment emparée jusqu'ici. Comment est-ce que tu vois l'arrivée de ces thèmes assez nouveaux dans le discours de la gauche ?
Déjà... on a eu 5 ans de gauche. On sort de 5 ans de gauche, en tout cas nominalement. C'est pour ça que je vois Marie qui met des guillemets. Effectivement, on sort de 5 ans de gauche, bon, convertie, effectivement, qui a été convertie dans les années 80 au néolibéralisme, et dans laquelle on trouve une énorme primauté de l'économique sur tout le reste. L'intérêt de cette campagne, effectivement, c'est d'avoir intégré des thèmes nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que... En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. On voit bien que faire une campagne comme pouvait le faire le Parti communiste dans les années 90, ça fonctionne plus. Parce qu'il y a des enjeux, effectivement, qui ont évolué. Il y a l'enjeu de la transition et de la planification écologique. Il y a l'enjeu, éventuellement, de la décroissance. Il y a l'enjeu du numérique. Donc tout ça, ça amène, effectivement, à recomposer énormément le programme. À parler de ces choses-là, à pas forcément les voir, par exemple, à pas forcément voir le numérique comme un outil type Uber. Donc effectivement, l'intérêt de ça, c'est surtout d'avoir mis en évidence l'idée, d'ailleurs c'est le titre du programme, hein, l'avenir en commun, l'idée que ces choses-là, finalement, c'était qu'il fallait provoquer une prise de conscience sur ces thématiques-là, qui finalement nous concerne tous.
Et nous sont communes. Donc.
Et nous sont communes, du coup.
Alors justement, de commun à communisme, on a envie de faire le jeu de mots, on a envie que la langue fourche. On parlait de la gauche tout à l'heure. Est-ce que le terme gauche est encore d'actualité aujourd'hui, surtout compte tenu des résultats qui viennent de tomber ? Et si oui, quelle place la France insoumise entend y tenir ? Quelle est la place qu'elle doit se créer ? Et comment elle espère reconfigurer cette gauche ?
Alors déjà, je vais partir des résultats de dimanche. Le score qui a été fait par la France insoumise, notamment comparé à celui du Parti socialiste, déjà, je pense qu'on peut en conclure effectivement que on a une vraie force de gauche à gauche. Donc une force de vraie gauche à gauche. Donc ça, déjà, c'est très bien. J'emploie beaucoup le terme de gauche. Justement, tu poses la question, le terme de gauche est-il d'actualité ? Alors en fait, il y a beaucoup de gens à gauche qui préfèrent dire progressiste. Mais ça veut dire quoi, progressiste ? Macron aussi dit progressiste.
Oui.
Tu vois ? Non. Gauche, ça sous-entend un certain nombre de choses. Ça sous-entend l'idée... du refus de la domination du capital sur le travail, l'idée justement qu'il y a des communs. L'idée que, par exemple, on préfère des choses comme salaire ou à des termes comme pouvoir d'achat, par exemple, des choses-là. Donc voilà, c'est vraiment ça. Il faut continuer à l'utiliser.
Et du coup, aujourd'hui, la France insoumise au sein de cette gauche, elle incarne l'avenir d'une gauche ? Parce que là, les législatives arrivent et puis il y a quand même une vie politique qui continue en France.
Alors, déjà, la France insoumise, pour la France insoumise, la campagne n'est pas terminée. Effectivement, il y a les législatives au mois de juin. Donc ça, la campagne n'est pas terminée. Effectivement, là, on fait une petite pause parce que, en tout cas, il y a une partie des militants de la France insoumise qui ont pris un peu une douche froide dimanche. Donc oui, il y a les législatives. Alors après, la France insoumise va très probablement se transformer en parti. Donc on peut espérer être enfin le parti qui représente la gauche.
Alors on va passer à une dernière partie de cette interview parce que tu représentes donc les insoumis de l'ENS de Lyon. Alors en tant que groupe d'appui, quelles ont été vos actions et puis quelle est la pertinence finalement de créer un groupe politique à l'intérieur de l'école ? Quel est cet ancrage local dans cette structure qu'est l'école ?
Alors, déjà, quand on a créé avec Léo le groupe d'appui donc à la toute fin du mois de janvier, l'idée c'était vraiment de partir du local pour une raison très simple, c'est parce qu'on se connaît, on se croise tous les jours en fait. Du coup, c'est très facile de se parler, de construire des choses. Et l'idée des groupes d'appui, effectivement, au sein de la France Insoumise, c'était de construire des petites cellules localement, donc par réseau dans lesquels on se parle, on se connaît, pour après s'agréger et faire un mouvement plus national. Donc l'idée, c'était pas de parler des insoumis à l'ENS de Lyon, c'était vraiment de prendre l'ENS pour s'organiser entre nous et se greffer au mouvement plus général. Parce que je sais qu'il y avait des gens que ça intéressait, mais qui forcément, tout seul, c'est un petit peu compliqué peut-être.
Et alors du coup, qu'est-ce qu'on y fait aux insoumis de l'ENS de Lyon ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il manquait au niveau des tractages, des collages, etc., qu'il manquait du monde dans le secteur du 7e arrondissement. Donc tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à tracter sur les marchés, notamment les marchés de Jean Jaurès et les marchés de Jean Massé. On s'est mis à tracter au métro, au tram de Bourg. On s'est mis à coller. Et puis petit à petit, surtout, on a commencé à collaborer avec d'autres insoumis, d'autres groupes d'appui du 7e arrondissement ou d'ailleurs. Et donc ça, c'était cool. Et maintenant, on est invité aux apéros des insoumis.
Et alors, à l'échelle du groupe d'appui, peut-être, comment ça se poursuit maintenant ?
Alors, ce que certains vont probablement faire, c'est continuer la campagne, puisque dans le 7e arrondissement, dans la première circonscription dont fait partie le 7e arrondissement, il y a un candidat qui s'appelle Eliott Aubin qui a une chance significative de gagner. Mélenchon a quand même fait deuxième dans le 7e arrondissement. Donc je pense qu'il y en a qui vont commencer la campagne. Peut-être de manière un petit peu moins soutenue, parce qu'on va quand même être plus occupé vu que c'est la fin de l'année. Et puis après, il y a beaucoup de gens, y compris moi, pour qui la campagne de la France Insoumise, le militantisme ne s'arrêtera pas après la campagne de 2017. Donc on verra où. Peut-être dans la rue, on verra.
Aux élus étudiants, peut-être.
Ça,
on se retrouvera. Bien, merci beaucoup, Quentin, pour cette discussion autour donc de la France insoumise. Chers auditeurs, il est bientôt 21h sur Transistor. Vous écoutez le journal radiophonique Amplifié. Et tout de suite, avant de passer à la culture, nous en sommes aux sciences avec Alice. Bonsoir, Alice.
Bonsoir.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail publié il y a quelques semaines par des chercheurs principalement israéliens. Qui explore la diversité des protéines neurales chez les céphalopodes. Donc, comme d'habitude, une petite mise en contexte scientifique s'impose. Pour cela, je vais vous expliquer rapidement comment l'information génétique d'une cellule s'exprime. Dans la plupart des cas, car si la biologie a bien une règle, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Dans la plupart des cas, donc, l'information génétique se trouve dans le noyau de la cellule, sous la forme connue de l'ADN. L'ADN est composé de quatre molécules différentes, mises bout à bout, que l'on appellera, pour faire simple, A, T, G et C. Tout comme dans une langue, la séquence des lettres prend sens, c'est la séquence des quatre lettres A, T, G et C qui est lue par la cellule. Comme l'ADN est précieux, imaginez-vous que le taux de mutation d'une cellule de votre corps est d'une mutation pour un milliard de bases environ, alors qu'à tout moment, des molécules l'ouvrent, l'enroulent, le déroulent et le copient. Comme l'ADN est précieux, donc, la cellule ne le sort jamais du noyau. C'est donc une autre molécule qui va faire le relais entre l'ADN du noyau et l'extérieur du noyau, l'ARN. L'ARN est une copie d'un bout d'ADN qu'on pourrait assimiler à une phrase. Des molécules reconnaissent des séquences spécifiques de début et de fin, la majuscule, le point, et transcrivent chaque phrase en une molécule d'ARN. Cet ARN, que l'on appelle ARN messager, à juste titre, va servir de transport de l'information de l'ADN du noyau vers le reste de la cellule. Une fois sorti, d'autres molécules, cette fois traductrices, copient l'ARN dans la langue des protéines. Bien sûr, à chacune de ces étapes, on peut avoir une modulation, et les choses sont plus compliquées. Toutes les phrases d'ADN ne sont pas également lues, ne commencent pas pareil, ne finissent pas pareil, l'ARN subit quelques modifications avant de sortir du noyau et d'être traduit en protéines. C'est ce deuxième type de modification qui intéresse les auteurs. En effet, parmi les nombreux traitements que subit l'ARN avant d'être exporté hors du noyau, on peut avoir suppression de lettres, ajout, modification vers des lettres qui n'appartiennent pas à l'alphabet usuel des ARN, etc. Sauf qu'on peut vite avoir des problèmes si le message se retrouve transformé à chaque fois qu'on l'envoie, façon téléphone arabe. Enfin, croyez-moi, ça marche aussi bien avec des téléphones français, bref. Ce n'est pas quelque chose de si fréquent que ça chez les animaux. Il y a des modifications classiques qui consistent en la suppression de pans entiers de la phrase, mais c'est assez rare que l'on observe la modification, la suppression ou l'ajout de lettres. On peut au mieux avoir des remplacements de lettres qui ne changent pas la traduction en protéines. Sauf chez les poulpes. Chez les coléoïdes, pour être précise. Groupes dont les membres les plus notables sont les seiches, les calmars, les poulpes et les ammonites. Vous savez, ces coquillages en spirale aujourd'hui disparus. Que de surprises donc chez ces lointains cousins à tête molle. Car, comme vous le savez peut-être, ces bébêtes sont plus intelligentes que ce que leur apparence laisse transparaître à nous autres pauvres humains. Sans passer par les prédictions de résultats de matchs de football, les poulpes sont capables, par exemple, d'ouvrir des pots de confiture. Ça peut sembler un peu nul comme super pouvoir, mais replacé dans le contexte de l'évolution, sachant que les poulpes vivent au fond des océans, il faut prendre en compte le degré d'étrangeté que cet objet peut avoir à leurs grands yeux globuleux. En fait, le cerveau des céphalopodes coléoïdes intrigue beaucoup les scientifiques, car il détonne un peu parmi les invertébrés. Le cerveau du poulpe commun possède des lobes consacrés à la mémorisation et à l'apprentissage et contient 5 fois plus de neurones que celui d'une souris. Ce que proposent les auteurs, c'est donc une explication à cette complexité cérébrale. Contrairement à la plupart des êtres vivants dotés d'ADN que nous connaissons, il semblerait que cette branche des céphalopodes soit assez réticente à modifier son ADN et préfère modifier son ARN. L'avantage, c'est que plusieurs versions de l'ARN peuvent cohabiter dans la cellule, plus ou moins modifiées selon la disponibilité des enzymes de modification au moment de la production. On a donc possibilité de produire tout un tas de protéines à partir d'une même phrase d'ADN, d'un même gène. Et donc, la possibilité de constituer un système nerveux plus complexe. Le contre-coup de ce mécanisme, c'est que les molécules qui modifient l'ARN ne peuvent le modifier qu'en présence d'indicateurs très spécifiques, des mots qui, eux, doivent donc être présents sur l'ADN et conservés. Les auteurs montrent que cela induit en conséquence une évolution ralentie de l'ADN qui se trouve en quelque sorte alourdie par ces séquences de modification. Et voilà, c'était une petite ouverture sur la génétique de l'intelligence des poulpes.
Eh bien, merci beaucoup Alice. Voilà, chers éditeurs, vous ne pensiez peut-être pas en vous branchant sur Transistor ce soir que vous en apprendriez plus sur l'intelligence des poulpes, mais c'est chose faite. Et je crois, Raph, que tu as vu une pièce de théâtre impliquant des poulpes récemment.
Oui, cet été au Festival d'Avignon, un magnifique spectacle d'Angelica Lidl où 7 femmes, pendant à peu près un quart d'heure, se masturbaient avec des poulpes.
Et quelle magnifique transition.
Eh bien, quelle magnifique transition. En effet, c'était presque calculé vers la culture, la grande culture.
Celle c'est avec laquelle on se flagelle avec des poulpes, évidemment.
Voilà, tout à fait, bien sûr. Eh bien, c'est avec vous, Marie et Raph, pour donc le journal de la culture. Jingle.
Les polaires, les ravels, les berlioz, les bons passants, les renoirs et les rembrandts, qui survivent malgré le temps. Vivez-les, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La
Bonsoir à tous. Alors nous avions fini par nous habituer au beau temps lyonnais, mais le froid lyonnais lui aussi est de retour. Alors avant de pouvoir profiter de nouveau des pique-niques et autres joyeusetés de nos pelouses, voici de quoi sustenter un peu vos envies de sortie bien à l'abri. Si par hasard, hein, vous auriez ces temps-ci envie de vous changer un peu les idées.
Et on commence avec du théâtre à Bron, Marie.
Oui, puisque le festival Coup de théâtre de l'université donc, de Lyon 2 est déjà bien entamé, mais il vous reste jusqu'au 4 mai pour profiter de créations théâtrales uniques proposées par les étudiants eux-mêmes. Il s'agit de créations originales ou de reprises du répertoire, comme la pièce à laquelle nous avons pu assister mardi soir, Raph, Clôture de l'amour, un texte et une création de Pascal Rambert, de laquelle la compagnie Continuum a livré avec ambition et talent une adaptation assez poignante. Je pense que tu étais aussi d'accord, on n'a pas le temps d'en parler.
Très, mais très, très poignant.
Voilà, donc cette représentation nous a quand même donné l'eau à la bouche en nous montrant quelle pouvait être la qualité de représentation offerte par les étudiants. Alors si vous êtes curieux de découvrir les créations de cette 21e édition, il vous reste 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi prochain, et 5 pièces. Ça va de Cher inconnu, une relation épistolaire écrite et mise en scène par Marvin Bell, étudiant donc, en passant par des forêts japonaises ou un hôpital poétique, énergétique, de la compagnie L'une et l'autre. Il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà.
Alors, il faut quand même préciser que c'est vraiment dans le cadre des masters aussi. Hein. C'est beaucoup, c'est que des étudiants d'art du spectacle pour l'essentiel, et c'est vraiment dans l'idée de pour un début de professionnalisation. Alors enfin, donc une bonne raison d'aller à Bron, donc, et donc c'est jusqu'au jeudi 4 mai. Alors à Paris, cette fois, il y a du mouvement du côté des expositions.
Et oui, n'en déplaise à une certaine actualité, la scène muséale française, elle, s'ouvre largement, on a envie de crier enfin, à l'art contemporain africain. Alors, plusieurs expositions et d'envergure nous prouvent en effet avec plaisir que la scène africaine ne se destine pas à rester cantonnée au musée d'ethnographie, au cabinet de collectionneurs ou aux galeries spécialisées. A commencé ces temps-ci par la fondation Louis Vuitton et son événement Art Afrique, le nouvel atelier, qui a ouvert ses portes hier, le 26 avril. Alors, 3 propositions de parcours sont possibles. Le premier, Les Initiés, réunit un choix d'œuvres de la collection de Jean Pigozzi, qui de 1989 à 2009 a contribué à révéler une scène artistique dynamique et florissante, jusqu'alors inconnue en Occident. Des artistes comme Romuald Azoumé ou Chéri Samba sont ainsi mis à l'honneur, pour les plus connus d'entre eux. Un autre espace s'intitule « Être là », et se consacre plus précisément à l'Afrique du Sud, qui est un pays vraiment particulièrement dynamique artistiquement ces dernières années. Donc sans avoir ici la prétention d'en proposer un diaporama complet, il représente plusieurs personnalités déjà reconnues, comme Sue Williamson ou David Golbat, mais aussi des artistes moins connus, qui sont nés dans les années 70 ou 80, et qui tous revisitent l'histoire en affirmant leur subjectivité par des médiums différents.
Et on a d'autres lieux parisiens qui célèbrent aussi l'art contemporain africain, n'est-ce pas Marie ?
Oui, alors malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de tous ces événements. Mais par exemple, sachez que la Villette propose en ce moment Afrique Capitale, les deux au pluriel. Alors Afrique Capitale, puisqu'on a la radio. Non, en tout cas, cette expo rend hommage à cette richesse plurielle. Cette expo est organisée par le poète Simon Njami. Donc autour d'une 60aine d'artistes, et le parcours se déploie vraiment comme un poème. Et puis encore un autre lieu qui est unique au monde, rappelons-le quand même, c'est l'Institut du Monde Arabe qui fête ses 30 ans autour de l'expo 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe que l'on connaît encore trop peu. Bon, bref, je vais vite, c'est un large choix, vous l'aurez compris, qui sans faire de démagogie nous montre une ouverture, un dynamisme et une curiosité vers l'autre. Vous savez, avec un grand A là, celui qui fait encore un petit peu peur ces temps-ci. Et nous avons ce soir, il y a un homme, pardon, dont on a peu parlé pendant ces présidentielles justement, et qui pourtant a couvé des œufs entre le 29 mars et le 18 avril au Palais de Tokyo, dans un vivarium, maintenant la température à 37 degrés, et que nous pouvions voir en direct YouTube à toute heure du jour et de la nuit, pour finalement donner naissance à 9 poussins. C'est notre héros du jour, il est notre invité, mesdames et messieurs, Abraham Poincheval, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que ça fait de couver des œufs ?
Alors, qu'un homme couve des œufs m'intéresse parce que cela pose la question de la métamorphose et du genre. Alors, ce sont des énonciations très précises hein, qui peuvent tout à coup devenir poreuses, s'éroder, se transformer.
Mais alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que cela fait d'être une poule ?
Alors, écoutez, c'est fascinant. C'est fascinant. La poule a toujours quelque chose de fascinant, d'impérieux. Hein. Alors, quand elle couve, elle ne décampe pas de son nid. Hein. J'ai voulu voir ce que cela faisait. Faire la poule, c'est ce qu'il y a de plus beau dans mon geste. Hein. Mais les poussins sont nés et je ne suis pas leur mère. Je peux couver des œufs avec l'art et les faire éclore, mais pas devenir mère des poussins. Il y avait un problème de communication. Hein. Pourtant, je fais très bien la poule. Hein.
Merci Abraham Poincheval pour ce témoignage poignant et merci d'avoir fait la poule sur notre plateau.
Alors plus sérieusement, on revient à la danse dans 15 jours.
La danse des canards peut-être.
Pas exactement, mais en tout cas je prends un petit peu d'avance pour vous parler d'un spectacle qui aura lieu à Lyon, à l'espace Albert Camus.
C'est à Bron,
oui,
l'espace Albert Camus.
Oui, c'est à Bron. Autant pour moi, encore à Bron. Ce soir, on voyage très loin d'ici. Et donc, ce spectacle, c'est 4x4 Ephemeral Architectures par la compagnie Gandini Jungling. Alors, rien de moins compliqué pour moi, finalement, que d'évoquer cette création à la radio, tant elle est visuellement marquante. Sur scène, on a 4 danseurs classiques et 4 jongleurs qui procèdent sous nos yeux au mariage osé, on peut le dire, entre ballet classique, encore considéré comme art noble, et art de la jonglerie. Alors loin d'être fou, hein, le chorégraphe et la compagnie ouvrent un champ de possibilités jusqu'alors inexploré et les premières images sont jubilatoires. Imaginez une chorégraphie à la précision mathématique dans laquelle viennent se rencontrer corps des danseurs, cerceaux, quilles ou balles de jonglage. Donc finalement, cette création affirme la place de la compagnie à l'avant-garde du cirque actuel, qui dépasse les frontières des disciplines, et elle passe par Lyon, donc il faut vraiment en profiter, c'est dans 15 jours, le 11 mai, et je vous conseille de réserver bien vite.
Et pour finir, Marie, un peu de beauté dans ce monde de putes.
De brutes. Oui, Raph, en effet. Alors, sans transition, puisqu'on va parler de Claudia Cardinal, l'éternelle, qui est à l'honneur depuis hier et jusqu'au 25 juin à l'Institut Lumière. Alors, je fais vite, mais sachez que vous pouvez profiter de ce moment pour courir à l'Institut Lumière, découvrir des chefs-d'œuvre bien connus comme Le Guépard, évidemment, aux côtés d'Alain Delon. Ou encore Il était une fois dans l'Ouest pour les titres emblématiques, mais aussi des chefs-d'œuvre un peu plus intimistes, Sandra de Visconti, ou encore son premier grand rôle dans La fille à la valise, où elle est, on peut aussi la voir aux côtés de Marcello Mastroianni, enfin bref, il y a énormément de choix. Et on va terminer ce journal de la culture par une citation de Claudia Cardinal elle-même, que je vous laisse apprécier. « Je n'ai accepté d'être comédienne que si j'avais la garantie de la liberté. »
Merci beaucoup pour ce journal de la culture. Il est 21h13, passé de quelques secondes. Nous avons un peu de retard, mais Claudia Cardinal le méritait amplement. Et c'est maintenant l'heure de ton billet alchimique, Raph.
Alors aujourd'hui, Raph, tu vas nous parler d'une pièce de théâtre, Bâle, de Bertolt Brecht, qui vient d'être rééditée aux éditions de l'Arche en mars 2017, dans une nouvelle traduction d'Élie Recoing, pour la mise en scène de Christine Le Tailleur, créée au TNB de Rennes et actuellement en tournée à La Colline, entre autres. Alors, la précédente version de la traduction datait de 1956 et avait été faite par le poète Guillevic. Il s'agit de la première pièce de Bertolt Brecht, écrite à 20 ans, en 1918, qui se caractérise par une force lyrique qu'il délaissera par la suite, dans le didactisme plus serein qu'on lui connaît. C'est donc la deuxième version du texte, qui datait de 1919, qui a servi de base pour la traduction.
Alors, en premier terme, avant d'aller plus loin dans ce billet et de rentrer plus profond, je tiens à dire que de tous les livres dont j'ai parlé à ce jour, Celui-ci est sans doute le plus alchimique et je tiens cette œuvre dans la chair de mes livres comme une des plus belles et des plus énigmatiques. Et je ne suis pas le seul. Ball a même autrefois inspiré David Bowie, qui au début des années 80 a sorti un long album dans lequel il interprète les chansons de Ball, qui dans la pièce est un poète, chant qui parsème les scènes, et que Ball interprète avec sa guitare, toujours dans une terrible ivresse, dérèglement de tous les sens.
À noter également le très beau film de Volker Schlondorf, si je m'applique, avec Rainer Werner Fassbinder dans le rôle titre pour une de ses premières apparitions au cinéma.
C'est sans doute l'inverse d'ailleurs.
Non, c'est pas l'inverse. Le film est vraiment.
D'accord.
En fait, c'est une
c'est
des
vraiment.
Premières...
C'est Fassbinder c'est, qui est
en fait,
acteur.
Non, Fassbinder, en fait, c'est une de ses premières apparitions au cinéma, vraiment. C'est un film, voilà, et c'est pas lui qui réalisait. C'est vraiment une. Voilà, c'est un travail d'acteur,
d'accord.
véritablement, où il joue le rôle-titre.
Mais le film a été interdit à sa sortie dans voilà. les années 70. Et il n'est ressorti que depuis 2014, car même les ayants droit de Brecht s'y opposaient.
Voilà, c'est un film très licencieux, pour le coup, où Fassbinder vraiment montre tout le Fassbinder futur qu'il deviendra. Et on pourrait parler pendant plusieurs heures de cette pièce fulgurante. Pourtant, en ces temps troublés où on nous demande de choisir entre une mouche amère et une libellule, je pense que cette pièce, par ses excès et son fracas intense, nous appelle à la liberté. Car si la philosophie est l'amour de la chassesse, la littérature est l'amour de la liberté. Et Ball un appel au désordre dans tout ce qu'il a de plus rabaldien. Faire une orgie permanente avec tous les faux-semblants de notre société et son lot d'illusions bourgeoise, jouir de ses forfaitures comme le nécrophile jouirait sur un cadavre.
Mais qui est ce personnage finalement de Ball et quelle est sa vie ?
Alors Ball est un poète. Il apparaît comme une sorte d'ogre alcoolique et dépressif, possédé et qui possède. Il enivre et est enivré des hommes et des femmes qui le pressent. C'est un personnage qui est au-delà du mal, dans un va-et-vient permanent entre la douceur et l'étreinte farouche d'une vitalité désespérée. La pièce se déroule en plusieurs épisodes qui forment le roman de sa vie. Il se rend coupable de crimes et d'abandon et ce n'est pas loin d'être la même chose. Entre l'errance et la lucidité, il dit la vérité. Il chante le soir quand, ivre de schnapps, les couleurs du ciel lui donnent le souffle, la lueur, la vie. Il vit des histoires d'amour, vraies ou fausses, simple troussage ou grande et belle débauche. Il exhale l'amour comme un vautour. Le personnage va bien au-delà de la définition de l'excentricité, c'est un ange exterminateur, insolent et mystérieux dans sa propre destruction. L'histoire de Ball, quand on la regarde, quand on la lit, quand on la voit, brûle. Elle fait souffrir. Elle nous apprend que les mots ne sont pas sincères et que la brutalité d'une bête exprime parfois plus de désir que l'homme n'en est capable. Ball est violence, folie, et dans son errance avec Eckhart, son amant, dans ses abandons, dans sa violence avec Sophie aussi, qui est son amante, il tente de rédimer le monde, mais le monde ne peut plus être racheté. Ce personnage écoute la pluie, respire le ciel, et c'est dans cette nature qu'il veut se fondre. Sa poésie, ses chants, ses frasques et ses gestes langoureux débrident le cosmos et réécrivent le lyrisme en le faisant aimer l'avenir et la mort, et oublier le passé au lieu de s'en plaindre. Ball, enfin, c'est l'œuvre d'un poète génial qui vient annoncer la mort du romantisme allemand et en exprimer les derniers sursauts. L'œuvre d'un jeune homme forcené qui a voulu dire au monde dans une révolte cosmique qu'il n'en attendait plus rien. Nous n'attendons plus rien de ce monde, car nous savons que nous ne sommes pas libres, car la vraie liberté, c'est Ball qui la détient. Vivre et exister avec comme seule expérience aussi, et seule possibilité d'être poète. Et poète veut dire, chez Ball, qui n'a plus peur de lui-même.
Et donc, à lire absolument.
Merci beaucoup, Raph, pour ce billet alchimique toujours aussi... qui nous laisse toujours sans mots, hein, comme d'habitude. Tu les as déjà tous utilisés, on ne sait plus trop quoi dire. Chers auditeurs, l'heure est venue de la dernière chronique de ce journal radiophonique amplifié avec justement la radio et ondes courtes.
Ondes courtes.
Et on commence tout de suite cette chronique avec un son.
Je suis en pleine forme depuis dimanche. On a gagné, on a gagné. Et ouais, 10 millions d'abstentionnistes, un premier parti de France. On a pulvérisé tout le monde et on n'avait même pas d'affiche. Mangez vos morts.
Voilà, vous aurez reconnu l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré dans cette chronique qui fait le buzz sur Internet et pour cause. Comme tu le disais Mathias, le chroniqueur les fait refuser par France Inter au motif qu'elle défendait l'abstentionnisme. Il l'a donc enregistré depuis chez lui, après quoi il a annoncé quitter la station. Bon, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça donne un écho retentissant au dernier épisode d'Onde Courte et rajoute un point à ma liste des cas de censure à Radio France. Bref, venons-en au sujet de la chronique d'aujourd'hui, boxons. Les amateurs de création sonore l'attendaient, la plateforme de podcast créée par Pascal Clark a été lancée le 18 avril dernier. Avec une ambition, faire du contenu sonore de qualité et mettre enfin au goût du jour le podcast et même le podcast payant ici, puisque l'abonnement au mois coûtera 9,90€ à l'année. J'ai donc sorti ma petite carte bleue de Normalien pour tester ce nouveau site, pour seulement 5€ d'ailleurs, puisque le Normalien est aussi étudiant. Bon alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur Boxon ? Eh bien, déjà, on y trouve Pascal Clark.
Hier soir, il a dit « C'est une joie grave, lucide qui m'habite. »
Voilà.
J'ai cherché la contrepétrie, mais non, il n'y en avait pas.
Voilà.
Premier tour, tout commence.
Box son.
Merci à vous.
Voilà, avec un compte rendu assez rafraîchissant, il faut le dire, d'une soirée électorale que nous avons tous vécue devant la télé. Il y a Jean-Luc Hesse aussi, l'ancien directeur de Radio France publiera son humeur sur Boxon régulièrement sous le titre « Carte de presse numéro 3223 ». Mais surtout, Boxon veut parler des gens, leur donner la parole et fait la part belle au documentaire avec un premier reportage qui nous met au contact des jeunes de la cité de Planoise à Besançon.
Boxon.
Ouais, ouais, Planoise. Aïe, 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 on représente...
Planoise. Planoise, c'est un quartier de Besançon. Planoise, en fait, on n'y vient jamais. Dans la région, tout le monde raconte que c'est une cité chaude, une cité craignos, avec de la misère.
Le reportage fait parler. Les jeunes de la cité montrent leur envie de prendre la politique à bras-le-corps et de trouver leur place dans ce monde. Avec une impression bizarre, néanmoins, de n'entendre que ceux qui ont fait des études et sont sur le point de s'en sortir.
Il y a une première réflexion où on se dit, est-ce que je suis fou ? Est-ce que nous, les gentilités, on est victime d'un ostracisme particulier et on est devenu complètement paranoïaque du fait du monde extérieur qui, à chaque fois, peut raconter des choses infondées, fausses ? Ou est-ce que, réellement, il y a un deux poids, deux mesures ?
Voilà, alors, s'ajoute à cette série de documentaires, il y en a d'autres, un documentaire assez intéressant, il faut le dire, sur un maire dans la Creuse, dont on suit un petit peu le quotidien pendant une demi-heure. Un certain nombre de documentaires donc très intéressants comme ça, auxquels s'ajoute aussi Ododo, O-D-O-D-O, hein, une création musicale qui a vocation à nous aider à trouver le sommeil. Ça servira à certains, je pense. Bref, on a du documentaire donc, de l'humour, de la création, c'est déjà ce qui faisait le succès des pionniers d'Arte Radio, qui produit des podcasts depuis 2002, rappelons-le. Mais là, la machine semble lancée et on ne peut que se réjouir de voir enfin approcher l'avènement d'un mode d'écoute propre au développement de la création radio sous toutes ses formes. Nouvelles Écoutes, c'est d'ailleurs le nom d'une de ces plateformes de podcasts qui s'installe dans le paysage radiophonique, aux côtés de Binge Audio, de Joël Ronez, de Transfert, lancé l'an dernier par Slate.fr, d'Arte Radio et donc de Boxon. Avec des structures qui grossissent aussi. Binge Audio emploie 3 permanents et 25 intermittents. On est loin du créateur solitaire se promenant avec ses micros et ses centaines de bandes que personne n'écoutera jamais. Car l'audience est désormais au rendez-vous. De plus en plus de gens écoutent ce genre de programme, souvent sur leur trajet, grâce à leur smartphone. Avec des modèles économiques qui correspondent aussi, hein, Binge Audio va s'ouvrir à la publicité, Boxon est payant. Mais est-ce vraiment un mal quand on voit l'apport incroyable que ces nouvelles voies d'expression radiophonique font à la radio, qui est sans doute celui des médias traditionnels qui s'est le mieux emparé d'Internet ? Je ne crois pas. Alors espérons que Boxon, comme toutes ces plateformes, saura atteindre toujours plus d'oreilles et pourquoi pas les vôtres, chers auditeurs. « C'était la 23e édition du journal radiophonique Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Mathias Soubise, Marie Lécuyer, Alice Alasmar, Marie Blanc et Raph. Un grand merci à Marie Lécuyer et Marie Blanc qui officiaient en régie ainsi qu'aux équipes de NS Media pour leur soutien logistique dans la diffusion de ce direct. L'Amplifié est de retour dans 2 semaines à 20h30 en clôture du direct de fin d'année de Transistor, ne nous ratez pas. D'ici là, n'hésitez pas non plus à réagir à nos émissions sur notre site www.transistor.fr et sur la page Facebook de l'émission.